Brief Me Weekend, édition du 4 mai 2024.
Dans Brief Me ce week-end, les motivations de l'État actionnaire, l'abus de biens sociaux, un voyage au Caire et des événements d'actualité peints par des impressionnistes.
On revient au début.
Les motivations de l'État actionnaire.
L'État a adressé à l'entreprise de services informatiques Atos une lettre d'intention en vue d'acquérir ses activités souveraines, c'est-à-dire stratégiques, pour éviter qu'elles passent dans les mains d'acteurs étrangers, a annoncé dimanche dernier sur LCI le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Atos, qui connaît des difficultés financières, a précisé lundi que les secteurs intéressant l'État sont les supercalculateurs, les systèmes d'information utilisés par l'armée et les dispositifs de cybersécurité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la France a connu plusieurs vagues de nationalisation et de nombreux achats d'actions d'entreprises par l'État.
À l'origine,
les nationalisations, qui correspondent à la prise de contrôle de plus de 50% du capital d'une entreprise par l'État, deviennent un objectif politique dans les années 1930 avec l'arrivée au pouvoir du Front populaire, une coalition politique de gauche. En 1936 sont nationalisées les usines d'armement et les entreprises de construction aéronautique, puis les compagnies de chemin de fer, donnant naissance à la SNCF en 1938. Les nationalisations se poursuivent après la Seconde Guerre mondiale dans le but de favoriser la relance économique du pays. Trois secteurs clés sont concernés, les transports, l'énergie et les banques. En 1946, le gouvernement nationalise les compagnies minières, la Banque de France, quatre grandes banques de dépôt, d'importantes compagnies d'assurance ainsi que des compagnies de gaz et d'électricité, donnant naissance à EDF et à GDF. Air France est aussi nationalisée.
Les dates clés.
1982.
La vague de nationalisation sous Mitterrand.
L'arrivée de la gauche au pouvoir, avec l'élection de François Mitterrand, donne lieu à une vague de nationalisation en 1982. Le nouveau président considère les nationalisations comme une arme de défense de la production française et un rempart contre les monopoles privés. Des sociétés industrielles parmi les plus importantes du pays, dont Saint-Gobain, matériaux de construction, et Thomson, produits électroniques et électroménagers, sont nationalisées. L'État prend le contrôle d'une trentaine de banques et compagnies financières, dont Paribas et le CIC, Crédit Industriel et Commercial. Il s'agit de la plus grande OPA jamais réalisée dans l'histoire du capitalisme, écrit le chercheur Abdelilah Ramdouche dans l'ouvrage L'État d'influence publié en 1989, en référence au rachat de sociétés cotées en bourse. Après la victoire de la droite aux élections législatives de 1986 aura lieu le mouvement inverse dans le cadre d'une politique de limitation du rôle de l'État, plusieurs de ces entreprises seront privatisées.
2003.
Les sauvetages d'Alstom.
Le ministre de l'Économie, Francis Maire, annonce en 2003 que l'État participera, à hauteur de 500 millions d'euros, au plan de restructuration industrielle d'Alstom, en difficulté. L'État entend ainsi défendre un emblème de l'industrie française. Alstom construit les rames de TGV et l'emploi. Le groupe compte alors 110 000 salariés. Ce plan permettra d'augmenter de façon substantielle les fonds propres de la multinationale française et d'assurer l'obtention des cautions bancaires nécessaires à son activité, explique le ministère de l'Économie. L'État entre alors provisoirement au capital d'Alstom à hauteur de 21,4%. Ces parts seront revendues en 2006 à Bouygues pour 2 milliards d'euros, l'État réalisant une plus-value considérable, selon Patrick Kron, ancien PDG d'Alstom. En 2015, alors qu'Alstom se trouve à nouveau en difficulté, la branche énergie est revendue à l'américain General Electric et l'État reprend, toujours de manière provisoire, 20% du capital de l'entreprise. Depuis 2017, l'État n'a plus de part dans le capital d'Alstom.
2004.
La création de l'APE.
L'Agence des participations de l'État, APE, est créée en 2004. Rattachée au ministère de l'Économie, elle est chargée de gérer le portefeuille d'actifs de l'État et d'investir dans des entreprises jugées stratégiques. Elle prend des participations dans des entreprises de secteurs tels que l'énergie, les services et les transports. Au 30 juin 2023, l'État détient des parts dans 85 sociétés, dont 10 sont cotées en bourse, dont Airbus et Orange. L'APE estime la valeur totale de son portefeuille à 153 milliards d'euros. Le montant des dividendes perçus par l'État en 2022 s'élève à 2,2 milliards d'euros et vient abonder le budget de l'État. Dans un rapport publié en 2017, la Cour des comptes estimait que les participations de l'État dans des entreprises le plaçaient devant des objectifs souvent contradictoires entre ceux poursuivis par l'État actionnaire et ceux des politiques publiques. Par exemple, l'État, actionnaire du groupe nucléaire Areva, menait parallèlement sous la présidence de François Hollande une politique énergétique visant à réduire la part de l'énergie nucléaire.
2023.
La reprise d'EDF à 100% par l'État.
L'État français redevient en juin 2023 l'unique actionnaire du producteur d'électricité EDF. Il détient désormais 100% du capital de cette entreprise, contre 84% avant le lancement de son OPA en novembre 2022. EDF sort alors de la bourse où il était coté depuis 2005. Chiffré à 9,7 milliards d'euros, la renationalisation d'EDF par l'État vise à accélérer le renouvellement du parc nucléaire et à permettre la construction de nouveaux réacteurs d'ici 2050. L'État n'a plus à consulter les actionnaires privés et sa montée au capital vise aussi à rassurer les créanciers de l'entreprise. La première présidence d'Emmanuel Macron a été marquée par deux autres opérations, la nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire en 2017, afin d'empêcher le concurrent italien Fincantieri d'en devenir le propriétaire, et la montée au capital d'Air France KLM en 2021. Pour aider la compagnie à faire face aux difficultés financières liées au Covid-19.
Le saviez-vous ?
Une loterie pour les gueules cassées.
En 2019, l'État cède 52% du capital de la Française des Jeux, pour n'en garder que 20%. Il reste le premier actionnaire du groupe. L'identité du deuxième actionnaire est plus surprenante, il s'agit de l'Union des blessés de la face et de la tête, UBFT, à l'origine de la création de la Loterie nationale en 1933, ancêtre de la Française des Jeux. Les fondateurs de l'UBFT ont eu l'idée de créer une loterie pour récolter des fonds et venir en aide aux gueules cassées, ces blessés de guerre touchés à la face et à la tête qui ne sont pas considérés comme des invalides de guerre et ne bénéficient d'aucune aide de l'État. Devant le succès de ces activités, l'État décide de les reprendre au sein de la Loterie nationale, qu'il crée dans le cadre de la loi de finances de 1933 et dont l'UBFT devient actionnaire.
On rembobine la semaine.
Européenne. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a annoncé dimanche dernier se présenter aux élections européennes en tant que tête de liste de son parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, en tête dans les sondages. En France, un débat entre Jordan Bardella et Valérie Ayer, tête de liste du Rassemblement national et de Renaissance, s'est tenu jeudi soir. Les principales têtes de liste s'affronteront demain lors d'un débat organisé par RTL, M6, Le Figaro et LCP.
Charbon. Réunis lundi et mardi en Italie, les ministres du climat, de l'énergie et de l'environnement des pays du G7, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, ont trouvé un accord sur la fermeture de leurs centrales à charbon avant 2035. Sauf si elles disposent d'un système de capture et de stockage du CO2. Les dispositifs de capture et de stockage consistent à récupérer le CO2 industriel à la source, à le concentrer, le transporter, puis le stocker dans un site géologique de manière à l'isoler.
Culture. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité jeudi une résolution créant une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans les milieux du cinéma, du spectacle vivant, de la publicité et de la mode. Cette résolution avait été déposée en mars par la députée écologiste Francesca Pasquini. L'actrice Judith Godrèche avait demandé en février l'ouverture d'une commission d'enquête lors d'une audition au Sénat et le mois suivant lors d'une audition à l'Assemblée nationale.
Géorgie. En Géorgie, la police a réprimé cette semaine plusieurs manifestations contre un projet de loi imposant aux associations et aux médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger de s'enregistrer en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère, sous peine d'amende. Les milliers de manifestants critiquent ces similitudes avec une loi russe sur les agents de l'étranger utilisée depuis 2014 pour limiter les voix dissidentes.
Gaza. Les forces de l'ordre sont intervenues hier dans les locaux de Sciences Po Paris pour déloger des étudiants mobilisés en soutien à la bande de Gaza. 91 personnes ont été évacuées, a précisé la police à l'AFP. Les étudiants exigent la rupture des relations entre leurs écoles et des entreprises ayant des liens avec Israël. Aux États-Unis, la police est intervenue cette semaine dans plusieurs universités telles que Columbia à New York ou UCLA à Los Angeles.
ça veut dire quoi ?
Abus de biens sociaux.
Le PDG du groupe Lagardère, Distribution, Édition, Média, Arnaud Lagardère, s'est démis de ses mandats exécutifs au sein du groupe, a annoncé mardi l'entreprise. Il venait d'être mis en examen pour plusieurs motifs, dont abus de biens sociaux. Un abus de biens sociaux est un délit consistant, pour le dirigeant d'une entreprise, à utiliser des biens de la société dans son intérêt personnel, explique le professeur de droit Bruno Dondreau dans une vidéo publiée sur la plateforme Canal U, soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le juriste cite comme exemple un repas au restaurant avec des amis payés par la société, sauf à pouvoir démontrer que l'invitation au restaurant avait une utilité pour la société. Il peut aussi s'agir de la réalisation de travaux à son domicile ou d'un voyage non lié au travail, s'ils sont financés par l'entreprise. Le Code du commerce prévoit une sanction de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende pour le dirigeant fautif.
Ça vaut un clic.
Hommage à Cantet. En hommage au réalisateur Laurent Cantet, Palme d'Or à Cannes en 2008 avec Entre les murs, décédé le 25 avril, Arte propose de voir ou revoir trois de ses films, L'emploi du temps, qui raconte l'histoire d'un homme pris au piège de son mensonge, Ressources humaines, qui mêle lutte de classe et de génération, et un court-métrage, Jeu de plage.
Voyage au Caire. Un balcon du Caire au coucher de soleil, une vue sur les pyramides de Gizeh depuis une fenêtre d'hôtel ou sur une felouque descendant le Nil dans la lumière de l'aube, N. Pierre partage une collection de photographies de l'artiste égyptien Nour El Masri. Ces clichés, qui semblent tout droit sortis d'un rêve, vous transporteront dans un autre temps.
L'actu impressionniste. Et si les grands peintres impressionnistes avaient vécu le confinement, les mobilisations des gilets jaunes ou l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Média, un site conçu par les étudiants de l'école de journalisme IPJ Dauphine, propose une sélection de tableaux représentant des événements ayant marqué notre décennie et généré, grâce à l'intelligence artificielle, dans le style de Monet, Degas ou Renoir.
Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end sans ombre au tableau.
Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Caroline Brenière et Laurent Mauriac.